Frères et sœurs, c'est toujours un questionnement de savoir quel texte prendre pour le dimanche. Donc la lecture de ce passage de l'Épître aux Romains était une des lectures proposées par la Fédération protestante de France pour la lecture de la Bible en 6 ans. Et j'ai choisi moi-même un autre texte aujourd'hui qui est dans l'Évangile de Marc au chapitre 4, les versets 35 à 41. Le soir de ce même jour, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir renvoyé la foule, il l'emmène comme il était dans le bateau. Il y avait aussi d'autres bateaux avec lui. Survient une forte bourrasque. Les vagues se jetaient dans le bateau. Déjà, il se remplissait. Jésus, lui, dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ?» Réveillé, il rabroua le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et un grand calme se fit. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous peureux ? N'avez-vous pas encore de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc est-il celui-ci ? Que même le vent et la mer lui obéissent. » Nous pouvons chanter « La parole est à Dieu ». Frères et sœurs, lorsque ce culte diaconal m'a été confié, il m'a été demandé de prêcher sur le thème de la visite. Mais je n'avais pas réalisé alors que ce serait le jour des élections du second tour. Alors quoi ? Vais-je parler des élections avec l'enjeu auquel nous assistons et l'angoisse qui monte pour certains d'entre nous, ou bien vais-je m'en tenir au thème qui m'a été proposé? Et puis, faut-il qu'un pasteur sorte de sa réserve? Doit-il prendre parti nommément? Ou bien est-il préférable qu'il garde une certaine distance avec les événements et avec la panique qui s'exprime dans les médias et dans nos conversations? En même temps, la Fédération protestante de France et l'Église unie, par le biais de leur président, le journal Réforme, d'autres institutions confessionnelles se sont clairement exprimées pour que les protestants fassent barrage à l'intolérance et à la peur. Alors, le pasteur peut-il encore parler de visite ? Lorsqu'une telle pression s'exerce et que certaines activités diaconales sont directement concernées par le résultat des élections. Eh bien, frères et sœurs, au risque de déplaire ou de plaire, j'ai choisi de traiter du thème de la visite. Oui, c'est un vrai risque, celui de ne pas être écouté parce qu'on a autre chose en tête, celui de ne pas répondre aux attentes de l'auditeur. Mais je vais vous proposer d'embarquer avec moi, de larguer les amarres et de partir vous aussi en visite, tout comme l'aumônier ou le bénévole qui, devant la porte d'un malade, doit laisser tout ce qui le préoccupe pour se mettre à l'écoute de celui qui se trouve derrière la porte, comme on se met à l'écoute du Christ. J'étais malade ou en prison, et vous m'avez visité. Alors, imaginez. Imaginez qu'on vous a signalé une personne de confession protestante qui a demandé la visite d'une personne de l'aumônerie. Vous ne connaissez pas son nom, elle ne figure pas sur vos fichiers. Vous ne connaissez pas non plus son état de santé. Vous êtes à présent devant sa porte, ou plutôt sa chambre, parce que la porte n'est pas fermée, comme quasiment toutes les portes du service, parce que c'est plus pratique. On n'a pas besoin de frapper et d'attendre une réponse. Il faut faire vite à l'hôpital, être efficace. Dans le couloir, il y a du monde. Des proches de malades, des membres du personnel, des ambulanciers qui passent avec une personne sur un brancard. Deux personnes sont dans la chambre. Laquelle répondra au nom que l'on vous a remis ? Celle qui est près de la porte et qui est endormie ? Ou bien celle qui est derrière le rideau, côté fenêtre, et que vous ne voyez pas ? Vous vous accrochez à votre badge qui signale bien qui vous êtes, vous. Marie-Pierre Vandenbosch, aumônier protestant, ou une telle visiteuse. Vous portez bien sûr votre petite croix huguenote. Vous allez la chercher pour que elle apparaisse comme un signe de reconnaissance. Enfin, vous êtes un peu outillé, une Bible, quelques belles images avec des versets bibliques, et puis, votre foi. Certes, vous avez la foi, mais vous avez aussi les fois. Comment allez-vous être accueilli ? La personne souffre-t-elle ? Parle-t-elle ? Ou va-t-elle se plaindre sans cesse ? Ou ne pas parler ? Ne pas entendre ? Tenir des propos incohérents ? Avoir des pustules géants sur la figure ? Sentir mauvais ? Ou va-t-elle vous réclamer le plat bassin qu'elle ne parvient pas à obtenir depuis une demi-heure ? Est-ce que vous allez être à la hauteur ? Lui apporter le réconfort dont elle a besoin ? Allez-vous trouver la bonne parole dans cette Bible que vous avez emmenée et qui est si grosse ? Certes, vous avez la foi, mais cette foi vous permettra-t-elle de quitter le rivage pour passer vers l'autre bord et aller rencontrer l'autre ? On peut entrer dans une chambre d'hôpital ou dans une maison comme on tend une pièce à un pauvre qui a faim, sans le rencontrer. Il y a des visites confortables, comme il peut y avoir une diaconie confortable, celle qui nous donne bonne conscience parce qu'on est du bon côté, du côté des bien portants, du côté des autonomes, du côté des engagés, des confiants, des protestants, des sauvés. Les uns sont ainsi du bon, tandis que les autres sont du mauvais côté, malades, dépendants, passif, craintif, docile, inconverti. On peut rester chacun sur sa rive, dans la posture du sauveur ou dans celle de la victime, tandis qu'ensemble on s'accorde à trouver des personnes ou des institutions qui jouent le mauvais rôle, celui du maltraitant, de l'exploiteur, du profiteur, du parasite, du bourreau, du dictateur, du croque-mitaine, du méchant. Arrêtons de diaconer, s'était exclamé Serge Oberkampf lors d'un synode. Cette diaconie-là n'est-elle pas celle qui cherche à apporter des réponses rapides et efficaces aux besoins qui s'expriment et oublie d'aller plus loin? Cette diaconie-là n'est-elle pas celle contre laquelle, il y a 500 ans, Luther s'était révolté? Une diaconie qui prend le pouvoir sur les consciences et qui met l'autre sous perfusion, qui le rend dépendant, imbécile. Une diaconie qui évite la remise en question lorsque l'autre devient autonome et exprime des choix qui nous dérangent. Une diaconie qui empêche la relation, la rencontre, la communion et qui creuse lentement mais sûrement une fracture entre riches et pauvres, entre bien portants et malades, jeunes, vieux, croyants, non-croyants, chrétiens, musulmans, élites, petit peuple. Il y a 500 ans, Luther, en redécouvrant le message du salut par la foi, se révolte contre l'Église catholique qui s'arroge l'exclusivité de la pensée spirituelle et il redistribue les cartes. C'est une véritable vague qui bouleverse toute l'Europe. La tempête se déchaîne, le bateau de la chrétienté chavire. Mais heureusement, le Christ était dans le bateau. Luther l'a réveillé. Frères et sœurs, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à la vigilance. Il nous faut veiller. Et je crois vraiment que c'est ce qui est en train de se passer. La diaconie doit être avant tout une affaire, une œuvre de la foi. Et je vais reprendre le terme que mon collègue Hervé Gantz a utilisé pour ceux qui se mettent à ce service, le terme de diapôtre. Si elle n'est pas une diaconie du sens, selon les termes du théologien Gérard Deltel, elle ne peut être une œuvre bonne. Et c'est bien pour cela que je suis ici d'ailleurs. Je vais vous apporter un petit témoignage. Il y a une quinzaine d'années, je me suis engagée dans le mouvement ATD Quart Monde. Je n'étais pas du tout protestante. Je me suis engagée dans ce mouvement-là parce que c'était un mouvement qui redonnait la parole aux personnes qui vivent dans la misère. Un mouvement qui cherche avant tout à relever les personnes par la culture et par le débat. Donc j'ai écouté. Et ce que j'ai entendu à ce moment-là, ça a été essentiellement une revendication à être comme tout le monde. Et être comme tout le monde, c'était être habillé comme tout le monde, manger comme tout le monde, remplir son caddie comme tout le monde. Et là, je me suis dit, mais on n'y est pas. Nous ne sommes pas dans le même bateau. Ces personnes souhaitent avoir un pouvoir d'achat, alors que moi, je cherche à penser à autre chose, à m'en déposséder. Je cherche à vivre une rencontre. Je cherche à remettre du sens dans nos vies. Alors, par quoi passer ? Par le politique ? J'y ai bien pensé, mais vraiment, je ne suis pas douée. Alors, j'ai un jour poussé la porte du temple Saint-Éloi à Rouen. Et j'ai pensé que c'était là qu'il y avait quelque chose à faire. Lorsque, quelques années après, il m'a été demandé de rédiger mon mémoire de master, je me suis bien évidemment souvenue de cet appel premier. Bouleversée par un témoignage radiophonique de SDF qui s'interrogeaient sur le sens de leur vie face à la mort, interpellée par l'engagement du mouvement Les Morts dans la rue, qui offre des obsèques et une stèle à ceux qui sont décédés là, sur le trottoir. Eh bien, j'ai réfléchi à la relation entre le rite et l'exclusion. Frères et sœurs, combien y a-t-il de ces personnes que nous rencontrons dans nos entraides au culte ce matin? Ou si ce n'est au culte, dans nos groupes d'église, quels moyens ont-ils de s'exprimer? Je sais qu'il y en a, bien sûr. Mais je crois que notre rôle en tant que protestants, héritier de la pensée de Luther, c'est justement de pouvoir redonner une autonomie de la pensée, de redonner une parole. Parce que le premier besoin n'est-il pas avant tout spirituel? Nous pouvons avoir faim à condition d'être toujours considérés comme un être humain et pas seulement une bouche à nourrir. Alors, frères et sœurs, vous allez me dire, « Oh là, on s'est éloigné de la visite. » Peut-être pas. Parce que la visite, c'est croire d'abord qu'un autre est venu nous visiter, avant même que nous ne visitions. Christ est le passager, parfois clandestin, dans nos visites. Si nous poussons la porte d'une chambre pour répondre à une demande, en réalité, nous ne connaissons jamais la véritable question. Visiter, c'est accepter de partir vers l'inconnu, l'inconnu qu'est l'autre, l'inconnu vers lequel nous irons ensemble. Visiter, c'est prendre le risque d'affronter le chaos, la tempête des interrogations, des doutes, des cris de révolte ou de douleur de l'autre, c'est être confronté à l'impuissance, à notre propre impuissance. Dans la visite, comme dans les services de notre diaconat, nous ne sommes pas invités à jouer les sauveurs, les conseilleurs, les consolateurs, les arrangeurs, les bienfaiteurs. Jésus nous invite à passer avec l'autre, avec lui, vers l'autre bord, pour rencontrer la croix. Celle face à laquelle lui-même a accepté de rester impuissant. La visite est une diaconie du sens, celle qui ouvre les yeux sur celui dont la tête repose à l'arrière sur le coussin, c'est-à-dire à la place du barreur. La visite, c'est permettre à l'exclu de devenir l'élu. Eh bien, frères et sœurs, c'est celui-là que je vous propose d'élire aujourd'hui. Amen.